Sri Lanka, île envoûtante au cœur de l'océan Indien. Entre plages dorées, jungles luxuriantes, plantations de thé perchées dans les montagnes et temples millénaires, le Sri Lanka est un concentré de nature, de culture et de spiritualité. Anciennement appelé Jailan, signifiant gazelle en turc, ce nom reflète ses racines et ses liens historiques et culturels avec la Turquie. Dans l'Antiquité, le Jailan était une plaque tournante du commerce et des échanges culturels. Il donnera même son nom à un célèbre thé.
C'est cette terre de contraste, marquée par des influences bouddhistes, hindoues et coloniales, que Robin a explorée pendant plusieurs mois. Et c'est cette même destination qu'il nous invite à découvrir le temps de son récit.
Il y a pas mal d'espèces endémiques, si je ne dis pas de bêtises, des espèces que tu ne vas pas aller voir ailleurs, des végétations très différentes, des cascades, avec l'océan qui est un peu présent partout. Tu peux en 3-4 virages changer complètement. Je m'appelle Robin, j'ai commencé à voyager il y a quelques années en 2016. Et là, le dernier voyage en date, c'était cet hiver en Asie du Sud. Le premier pays, c'est Sri Lanka. Et c'était un petit délire parce que je voyageais avec ma sœur. Donc on arrive dans ce pays, ça fait genre depuis 2018 que j'ai pas voyagé. Et je me retrouve du coup dans ce pays d'Asie du Sud qui pour moi allait ressembler fort à un pays d'Asie du Sud-Est. Alors que assez différent, la rencontre avec les gens, la culture, c'est vraiment, on est plus proche de la culture indienne que la culture d'Asie du Sud-Est. Donc tu vas avoir un truc dans l'Asie du Sud-Est où ils sont, pour moi, ils sont plus dans les gens vont être plus dans une certaine distance, une espèce de respect, alors que la culture plus indienne et Asie du Sud, ça va être du on-off en fait. Il n'y a pas de merci, il n'y a pas forcément de bonjour. Les gens ils viennent te voir et ils te parlent direct. Donc au début, un peu surpris, j'arrive à Colombo en plus, donc capitale de Sri Lanka, grosse ville, donc quand tu t'attends à partir et être dans un endroit entre guillemets paradisiaque et tout ça, tu te retrouves dans une grosse ville surchargée, c'était un peu rude, mais en fait ville hyper intéressante qui est tout le temps en mouvement, il y a des marchés, il y a des temples, en plus au Sri Lanka ils ont une culture qui est vraiment liée entre les bouddhistes, les hindouistes, il y a aussi des musulmans et des chrétiens, donc du coup tu as vraiment un mix de cultures qui est assez dingue. Et à Colombo, tu vas avoir bouddhistes et hindouistes qui font des temples ensemble. Donc pareil, en termes de, tu vois, de respect de culture et tout, c'est incroyable. C'est comme si nous, on faisait des églises protestantes et catholiques et qui se mettent ensemble et qui disent « vas-y, on fait une structure similaire et on peut avoir les deux prêtres à l'intérieur, normal, tu vois ». J'ai l'impression qu'il y a des mélanges, mais qu'il y a aussi les typiques, parce que déjà, ils ont deux langues. Tu as les Singhalais, donc les, grosso modo, c'est pour faire large, mais grosso modo, les Singhalais, ils sont bouddhistes. Tu as, si je dis pas de bêtises, les musulmans et les chrétiens qui sont aussi Singhalais pour la plupart. Tu vas avoir quelques Tamils, mais enfin, Tamoul, nous, on dit en français, mais c'est Tamil. Et après, tu as les hindouistes qui sont Tamils. Et donc il y a une grosse embrouille, on va dire, même plus que ça, une guerre civile qu'il y a eu pendant des années, avec les Tamils qui étaient dans le nord et les Singhalais qui étaient dans le sud, avec une majorité quand même de Singhalais. Et tu vas le retrouver dans la culture où tu vas avoir des choses quand même, je trouve, typiques singhalaises et typiques tamiles, mais après tu vas avoir beaucoup de mix quand même. Parce que même quand tu vas, c'est quand même assez délimité dans les régions. Tu vas dans les régions de l'Est, ça va être des musulmans. Au sud et le centre, c'est plus des Singhalais. Et dans le nord, c'est plus des Tamils. Donc tu vas le ressentir un peu sur l'architecture, sur comment sont les temples, sur la nourriture aussi un petit peu. Tu vas chez les hindouistes, il n'y a pas de viande, par exemple. Donc forcément, la cuisine change pas mal par rapport au Singhalais. Il y a un plat vraiment, un plat, ça s'appelle le kotou. Et c'est juste incroyable, ça veut dire... Ça fait un peu comme les fried rice, si personne ne connaît la nourriture asiatique, c'est-à-dire que ça va être du riz avec des légumes, et finalement, en fait, dans chaque culture, dans chaque endroit, ils vont mettre, enfin, pas culture, plus endroit, ils vont mettre ce qu'il y a, tu vois. S'il y a tel ou tel légume, bah, ils vont le mettre dedans. Si c'est du poulet, ils vont mettre du poulet. Ça va être du poulet la plupart du temps parce que c'est plus facile à trouver et moins cher, je pense, que le bœuf ou le porc. Il n'y a pas beaucoup de porc en Asie, j'ai l'impression. Et en tout cas, bon voilà, le kotou, c'est un peu ce principe-là. C'est un plat où tu vas venir ajouter des choses avec des petites sauces type ngok mam ou là, je pense pas qu'ils utilisent le ngok mam, mais un peu ce même principe de sauce soja avec différentes épices. Et donc là, c'est une espèce de pâte qu'ils appellent le rôti, eux. Ça se rapprochait, tu sais, pas des pita, plus des tortillas, donc chapati, naan, plus ça que pita finalement. Chapati, naan, et eux, ils ont le rôti. Donc ils ont leur espèce de petit plat rond, le rôti, qui viennent découper avec deux couteaux, tu vois. Donc ils viennent taper ça et c'est assez intéressant parce que quand tu commandes un rôti, si tu sais s'il est frais, tu vas entendre en fait en cuisine où ils sont clac, 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 parce qu'en fait ils viennent taper, écraser le rôti, le mettre en espèce de petite pâte, donc ça va venir faire comme des pâtes et ça ils te rajoutent, comme je disais, les sauces, les légumes et c'est une dinguerie sans nom. Quelqu'un me disait je pars 15 jours au Sri Lanka, je lui dirais bah oui, bah faut pas que tu te perdes à aller partout parce que tu vas absolument pas avoir le temps. Mais j'aurais du mal à choisir vraiment un endroit. Je dirais il faut faire un endroit touristique, les temples et tout ça, parce que oui, c'est un endroit touristique, mais c'est des temples qui sont vieux, donc il y a une histoire, ça te raconte quand même quelque chose. Et du coup, de ça, bah, choisir Sigiriya ou donc dans le centre en fait de l'île, où c'est vraiment, t'as un rocher, ils appellent ça le rocher du lion, donc t'as un rocher qui sort de la jungle, c'est incroyable. Bon, ça coûte cher, donc moi je suis pas monté dessus. J'ai préféré aller à l'autre rocher, t'as un rocher qui est juste en face en fait, et qui est tout aussi bien. T'as juste effectivement pas les temples, mais je les avais vus à Annapurna. Donc j'avais vu des temples aussi à Polaruna. Moi j'avais fait les trois vu que j'avais eu beaucoup de temps. J'ai pris le temps de faire un peu tous les sites. Et du coup, de payer 50 euros quand t'es pas un archéologue à chaque fois, ça fait un peu beaucoup. Et là, à Sigiriya, je conseille ça à fond parce qu'en fait, tu peux monter sur le rocher qui est en face et tu vas avoir une vue de ce fameux rocher du lion, de la jungle, et tu t'imprègnes pareil. Et à l'été, aller plutôt vers Trichomalée. Qui est pareil, il y a un temple tout coloré juste à côté de la plage, plage blanc, cocotier, mer bleu turquoise, dinguerie. Tandis que dans le sud, ça va plus être vers Tengale. Donc finalement, ce que je vais plutôt conseiller du Sri Lanka, c'est éloigne-toi des sentiers battus. Éloigne-toi, va voir les gens, va discuter. Il y a toujours quelqu'un qui est motivé pour parler, pour voir un touriste, pour se raconter tel ou tel truc. Il parle super bien anglais, donc c'est facile. Et comme une personne qui vit là-bas depuis longtemps m'avait dit, mets la tête, ça sent une odeur, hop, mets la tête, regarde, n'aie pas peur d'être curieux, ils vont aimer ça, et s'ils n'aiment pas ça, ils vont dire, attention monsieur, arrêtez quoi. Faut y aller quoi, faut essayer de se balader, prendre un tuk-tuk et conduire le tuk-tuk aussi. Je vous conseille ça fortement. Je dirais que le plus gros truc que j'ai eu moi, ou le plus gros coup de cœur que j'ai eu au Sri Lanka, c'est de conduire ce véhicule que beaucoup conduisent en famille et tout ça, parce que ça coûte moins cher qu'une voiture. Donc il y a plus de gens qui ont accès à ce truc-là, ce qui coûte quand même de l'argent. J'ai halluciné sur le niveau de vie qu'ils ont et le coût des véhicules. C'est là que tu te rends compte pourquoi ils vont réparer à chaque fois les choses, parce que c'est comme si nous on achetait une voiture à 10 000, 15 000 euros. La personne qui n'a pas trop d'argent va devoir s'acheter quand même une voiture à 10 000 euros. Donc ça, c'est beaucoup d'économies pour pouvoir s'acheter son véhicule. Et le tuk-tuk, donc c'est pour expliquer, si véhicule à trois roues, avec un habitacle devant. Donc t'es ambiance mi-moto, mi-voiture, tu vois. Donc tu sens les odeurs, tu vois les paysages d'une façon différente. Et je dirais que la dinguerie du Sri Lanka, c'est que c'est le seul pays, de ma connaissance, où tu peux louer un tuk-tuk sans difficulté. Il y a un moment, j'avais justement le tuk-tuk, on est sur une route et on décide de prendre cette route-là parce que ma sœur voulait absolument voir des éléphants sauvages. Donc on est allé à un endroit où il y avait un safari, que je conseille quand même, c'est Udawale. C'est un espèce de parc national, mais t'en as plein, t'as Yala, enfin, t'as plein de parcs nationaux avec des éléphants dans leur milieu sauvage, de tout ce genre d'animaux, rhinocéros, bon, y a des léopards, mais c'est une chose assez rare, faut avoir de la chance pour voir un léopard. Et là, du coup, on décide de passer sur une route qui est réputée pour voir des éléphants, parce que les éléphants, ils s'en foutent que cet endroit-là, ça soit un parc national, parce que l'être humain a décidé de mettre un parc national à cet endroit-là. L'éléphant, lui, s'il a envie d'aller de l'autre côté de la route, il y va. Même s'ils ont mis des barrières, des machins, il essaye de faire un peu sa vie. Et donc là, on passe sur cette fameuse route où on nous dit, c'est sûr, vous allez voir des éléphants. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, ça fait 30 jours qu'on est au Sri Lanka. Ça fait 30 jours qu'on conduit un tuk-tuk et ça fait 30 jours qu'elle veut voir des éléphants et qu'on se balade et qu'on nous dit là-bas, c'est sûr, vous allez en voir. Et on n'en voit pas et on rencontre des gens qu'on a vus, tu vois. Donc, on commence un peu à en avoir marre de ne pas voir cet éléphant sur la route. Moi, j'étais assez content parce que je sais que c'est une grosse bébête, c'est moi qui conduisais. C'est de la tôle quand même, donc un éléphant qui cogne ton tuk-tuk, c'est assez délicat. Et on est sur cette route et on suit. Donc, en fait, elle colle, elle part de Kataragama. Donc, il y a une ville aussi assez intéressante parce que tu vas avoir, comme je disais tout à l'heure, église, temple bouddhiste, temple hindouiste, mosquée, tout ça à côté, tu vois. Et tu peux avoir un gars qui fait ramadan, l'autre qui boit de l'eau au même moment, l'autre qui mange de la viande et le végétarien qui, tu vois, il n'y a aucun problème en fait. Chacun fait ce qu'il veut, c'est pas un manque de respect parce que juste à côté du gars qui fait le ramadan, tu bois de l'eau, tu vois, c'est un délire. Et bon, bref, on est sur cette petite route et effectivement, on roule très rapidement et on tombe sur un éléphant sur le côté de la route. C'est canon, ma sœur elle prend ses photos. Moi, j'avoue que ça me fait quelque chose aussi de voir cette grosse bébête. Nous, on a des sangliers et des chiens à la rigueur sur le bord de la route. Eux, il y a des éléphants, quoi. Tu vois, c'est genre dinguerie sans nom, quoi. Et on continue, et là, deuxième éléphant. Mais sauf que le deuxième éléphant, on le voit au milieu de la route. Donc, je m'arrête. Il y a un tuk-tuk d'un local qui est juste à côté qui s'arrête, qui était déjà arrêté. Donc, je m'arrête et on discute deux secondes et je lui demande si l'éléphant n'est pas dangereux. Il me dit non, dangereux, no problem. Il y a du monde de l'autre côté qui commence à s'accumuler. Donc, en fait, il faut imaginer, on est sur une longue route assez noire avec le trait jaune au milieu et ça dénote les couleurs avec du vert, vraiment un vert qui tabasse sur le côté, ciel bleu de dingue. Donc, on est dans la jungle, là, tu vois. Et il y a les autres tuk-tuk qui arrivent de l'autre côté, il y a une espèce de jeep, tout le monde essaie d'arrêter parce que l'éléphant il est moitié route, sa trompe dépasse la ligne jaune du milieu, donc il est vraiment moitié route, c'est un peu compliqué de passer. Donc t'as un tuk-tuk qui décide de traverser et on voit l'éléphant qui essaie de lui rentrer dedans et qui fait une espèce de tuk-tuk, faire une espèce de virage, on se dit ce qu'il l'a touché, ce qu'il l'a pas touché, et au même moment où je vois ça, je tourne ma tête vers le local qui était dans son tuk-tuk en train de faire son reportage à ma droite. Et lui, il tourne sa tête en même temps. Donc, tu sais, on croise nos regards et il me dit « little dangerous hein. ». D'un seul coup, l'éléphant est dangereux. Donc, OK, donc ton avis, maintenant, je le prends un peu avec des pincettes et je vais rester là. Et là, une jeep de l'autre côté, je les vois passer. L'éléphant passe. Il essaie de forcer le passage, la jeep. L'éléphant se bloque complètement et passe sa trompe à l'intérieur de la jeep. Commence à secouer la jeep. Écoute, on aurait dit qu'elle faisait 10 kilos, tu vois. La jeep, elle secoue à droite, secoue à gauche. On entend à moitié des cris. Je me dis, oh, c'est chaud. La jeep finit par réussir à s'en sortir, passe. C'était blindé de gens derrière. Donc les gens, ils étaient accrochés au truc. Ils n'avaient pas trop vu ce qui se passait. Ils avaient juste vu qu'ils étaient secoués par un éléphant. Mais je pense qu'ils ne savaient pas vraiment ce qui s'était passé, tu vois. Et moi, je me dis, allez, il faut qu'on y aille. Donc je commence à accélérer. Ma soeur me dit, qu'est-ce qu'il fait ? Tu vas, on y va. J'accélère. J'accélère au maximum pour passer. Il faut passer cette route, tu vois. Et donc, je passe. Donc, j'arrive. Il tourne sa tête vers moi. On croise le regard. Et finalement, j'arrive à passer. Il nous fait rien. Et on passe de l'autre côté à base de... C'est comme si on avait fait un truc de malade. On arrive à passer cette route. Les gens, ils ne s'embrouillent pas en voiture, en fait. C'est un truc de ouf. C'est, le mec qui te coupe la route, c'est, ça s'embrouille pas parce que t'as pas le temps de t'embrouiller pour ça. Donc je sais pas si c'est parce qu'ils sont vraiment dans une culture de respect aussi de l'autre et aussi du jugement foutiste de dingue. Mais du coup, tout le monde s'en fout, donc tu vas pas t'énerver avec quelqu'un qui t'a fait ça, tu t'en fous, c'est pas grave, tu passes de l'autre côté. Des dingueries sans nom sur la route, et j'ai pas vu une seule personne se bagarrer, quoi, tu vois. Donc j'ai regardé les locks, et du coup, je cherchais sur des sites. Et il y a un mec qui dit, ouais, il y a un code de la route, faites attention, parce que les policiers sont vraiment à cheval dessus et tout. Sincèrement, je me suis fait arrêter 5 fois par la police, 4 fois c'était pour me dire bonjour. Et une fois, ça a été vraiment pour me contrôler les papiers. Et je regarde ma sœur et je lui dis, oui, c'est ma Nangui. Nangui, c'est ses sœurs en singalais, donc on avait appris ça. Et je dis, ma Nangui, et là, sourire, dinguerie sans nom, il avait envie de nous prendre dans les bras et tout. Ah, family, family, pète un plomb, tu vois, et il nous laisse rouler. Donc tout ça pour dire, pour sur le code de la route, ils sont pas trop à cheval dessus. Après, t'évites de faire des dingueries. Tu vas pas rouler vite de toute façon. Les limitations pour les tuk-tuk, c'est 40. Les voitures, ça va jusqu'à 60, si je dis pas de bêtises. Et en fait, pas trop de monde roule plus vite que ça, quoi. Les routes sont nickel, par contre. J'étais très étonné de cette qualité de route, tu vois. C'est un truc de ouf. C'est mieux que chez nous. C'est mieux que chez nous, hein. C'est mieux qu'en Europe, sincèrement. Mais à chaque fois qu'on disait Nangui et Aya, et ils étaient complètement dingues qu'on voyage en famille. Ça les faisait kiffer de ouf qu'on voyage entre frères et sœurs. Ils aimaient vraiment ce truc-là. Et dès que tu te rends compte que dès que tu parles un peu avec eux comme ça et que tu dis que t'es frère et sœur, bah oui, ils te montrent leur famille, ça discute, ouais, je dirais qu'ils sont plutôt famille. Ouais. Il y a un truc vraiment à vivre à moitié ensemble en plus. Enfin... Il y a pas mal d'espèces endémiques, si je dis pas de bêtises, des espèces que tu vas pas aller voir ailleurs, des végétations très différentes, tu peux passer. Donc, pour donner un petit exemple, il faisait très chaud quand j'y suis allé, des 35-40 degrés. Et en fait, donc on est dans le nord où c'est une végétation assez plate. Il n'y a pas vraiment beaucoup, il n'y a pas de relief, c'est des grandes plaines et compagnie. Dès que tu dépasses un petit peu le nord, tu retournes dans le centre. Donc là, c'est ce qu'on a fait, on a décidé de redescendre dans le centre. Et en fait, tu commences à monter, il y a des petites montagnes, tu commences à monter. Et en fait, tu arrives à Nuarlia, qui est un village dans la montagne. Et là, il faisait plus que 10 degrés la nuit, tu vois. Donc, contraste de ouf. Et forcément, température qui change comme ça, tu imagines que la végétation change aussi de dingue. Là, on est sur des choses très vertes. Avec beaucoup d'eau, des cascades, tout ça, alors qu'en haut, tu avais l'impression que c'était désertique. Alors, je n'ai pas trouvé non plus que c'était désertique, enfin, c'était pas le vrai désert, mais tu as des choses comme nous dans le sud de la France où ça va être brûlé l'été. C'est rare qu'on ait de la pelouse verte, puis ça va être grillé, jaune. Là, dans le nord, ça va être vraiment plus aride, des longs arbres, pas plus de montagnes. Assez plat, comme je disais, avec l'océan qui est un peu présent partout. Tu vas être dans le centre très vert et tu vas dans le sud, ça va être aussi pas mal vert, mais avec des plages paradisiaques, les rochers qui sortent. Donc ça va vraiment changer. Tu peux en 3-4 virages changer complètement. Quand on monte à Nuarlia, donc on quitte Kandy dans le centre de l'île, qui est la capitale, Kandy, ça va être la capitale culturelle, donc on se retrouve vers Kandy où il fait très chaud et on décide de monter un petit peu. Et là, en 25 km, 30 km, et ça monte pas tant que ça. On se retrouve à perdre des degrés, vraiment à crever de chaud dans le tuk-tuk et à se dire, ma soeur qui se dit derrière, est-ce que je mettrais pas une petite veste, tu vois. Je lui dis, mais t'es pas sérieuse, parce que moi j'étais derrière la vitre, donc ça faisait un peu effet serre. Et en fait, je me dis, mais quand même, il fait pas si froid, je sors le bras dehors. Je me dis, ah, c'est un délire. Et on arrive là-haut, petite pluie fine. On avait vu que du ciel bleu pendant tout le temps. Et là, des nuages, tu vois. Et en fait, on nous expliquait que c'était dû au centre de l'île, au fait de comment elle était, qu'il y avait une espèce de microclimat à cet endroit-là, où toute l'année, il faisait beaucoup plus froid. Et des singes de partout, des animaux, c'est vraiment... Sri Lanka, c'est assez... Ils appellent ça la merveille de l'Asie. Et au début, j'étais un peu tout le monde veut dire que son pays est dingue. Et en fait, vraiment, c'est une dinguerie au niveau des paysages. C'est vraiment fou, quoi.
Thank you.